Vous écoutez On lit pour vous.
De progrès en retrait. Un texte de Marie Vastel, paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir. Depuis 5 ans, au Québec, 60 femmes ont été assassinées par leur partenaire ou ex-conjoint. 60 au Québec uniquement. Le Devoir entamait en 2020 la recension de ces meurtres conjugaux face à une déferlante de féminicides qui se succédait à un rythme bouleversant. 5 années se sont écoulées depuis, jonchées de consternants homicides, mais aussi, et heureusement, de réelles avancées dans la lutte contre la violence faite aux femmes qui demeure cependant inachevée. Que ce tragique seuil de décès ait été franchi à quelques semaines à peine de la Journée internationale des droits des femmes vient servir de saisissant rappel à celles ou à ceux qui seraient tentés d'en oublier toute l'importance. Les pas de géantes parcourus, ici ou ailleurs, n'effacent pas pour autant tout ce qu'il reste de la route tortueuse à aplanir et ne dédouanent certainement pas nos dirigeants de la franchir. Car cette violence est tenace, sournoise et d'une imprévisible cruauté. La sordide affaire des sadiques viols de Mazan, subie par Gisèle Pellicot des années durant, a semé l'effroi cet automne bien au-delà des frontières de la France. Une brutalité conjugale et misogyne que l'on aurait préféré ne jamais pouvoir imaginer. Vu d'ici, ce choquant procès est venu confirmer tout le chemin parcouru chez nous en matière de traitement judiciaire des crimes sexuels, avec la création de tribunaux spécialisés et d'une formation obligatoire pour les magistrats, visant justement à ne jamais réserver à la victime le même sort cruel que celui servi à Mme Pellicot. Son martyre révèle toutefois, ici aussi, la méconnaissance de la soumission chimique comme arme de violence sexuelle ou conjugale. D'autres outils ont été ajoutés à l'arsenal juridique québécois, comme le déploiement de bracelets anti-rapprochement et la codification de la notion de violence judiciaire au droit de la famille. Mais, au fédéral, l'ajout du contrôle coercitif comme infraction au code criminel s'apprête à mourir au feuilleton, et ce, malgré l'appui unanime des députés fédéraux, du Québec et de l'Association des chefs de police. Aux freins politiques s'ajoutent les entraves budgétaires. Quand le gouvernement caquiste ne déplore pas le coût des portes d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, il met un terme au financement d'un projet pilote de représentation juridique pour ces mêmes victimes. La lutte contre la violence faite aux femmes se fait à priorité variable et à détermination inégale. L'opportunisme d'Ottawa d'élargir l'interdiction d'armes d'assaut la veille de la Journée internationale des droits des femmes et d'une élection fédérale confortera en outre ceux qui ne voient dans cette journée rien de plus que de l'hypocrisie crasse. Laquelle sert d'ailleurs, au nom de la protection des femmes, à abroger ou à remettre en question les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis comme ici. Des programmes qui ne sont pas à l'abri de tout reproche, mais dont l'amélioration ne passe pas par leur abolition. Or, la duplicité est telle qu'au nom de cette soi-disant défense des femmes, c'est leur égalité à elles aussi qui passe à la trappe. Le mois de l'histoire des femmes et la Journée internationale des droits des femmes ayant précisément été rayés des calendriers de Google et d'Apple. Les adeptes du masculinisme ultra-conservateur ne pouvaient rêver de mieux. Le président américain Donald Trump méprise de toute façon les droits des femmes, qu'il s'agisse de leur libre choix aux États-Unis ou de leur survie à l'étranger. En suspendant toute l'aide internationale américaine, et donc plus de 40 % de l'aide humanitaire mondiale, ce sont elles qu'il punit au premier chef. 16,8 millions de femmes enceintes qui n'auront plus accès à des soins de santé essentiels, 8 000 qui pourraient mourir en accouchant dans les 3 prochains mois, des millions d'autres qui perdent leur droit à une scolarité. L'an dernier, les droits des femmes ont reculé dans un pays sur 4, rapportait récemment l'ONU. En raison de nos reculs ou de nos piétinements, les femmes de la planète, elles, vivent de violents ressacs. Aux Afghanes, à qui l'Occident avait promis l'émancipation et auxquels les talibans imposent aujourd'hui l'effacement le plus complet, la communauté internationale sert un silence assourdissant. Celles qui avaient retrouvé le droit de vote il y a 10 ans n'ont désormais plus le droit d'être entendues ni même vues, y compris par la fenêtre de leur propre demeure. À l'échelle mondiale, la violence physique ou sexuelle a frappé 736 millions de femmes, soit 1 sur 3. Les progrès ne préviennent pas les reculs. Cette perpétuelle lutte pour l'égalité n'est pas terminée, et la journée du 8 mars a encore et toujours lieu d'être soulignée. C'était « De progrès en retrait », un texte de Marie Vastel paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir.
Les surplus et vous, un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 23 février 2025 dans La Presse. Dans quelle équipe êtes-vous? Celle capable de manger chaque jour la même chose? Ou celle qui ne croit qu'en la nouveauté? Vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire après la publication de mon plaidoyer en faveur des restants. D'ailleurs, j'ai bien pris note de ne plus utiliser cette expression. Vous avez raison, manger des surplus, ça sonne beaucoup plus noble. En vous lisant, quelque chose m'a frappé. Certaines personnes n'ont aucun problème avec la redondance alimentaire, alors que d'autres sont incapables de s'imaginer manger fréquemment une même recette. Qu'est-ce qui explique ce fossé dans nos cuisines? Appelée par une enquête culinaire de grande urgence, j'ai contacté 3 expertes qui m'ont toutes répondu « Il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus » et qui ont ajouté, après mon court silence, « Mais j'ai une théorie. » Voici donc 6 facteurs qui pourraient influencer votre rapport au surplus. 1. Votre parcours. C'est documenté, il y a plusieurs facteurs qui nous influencent dans nos choix et comportements, explique Véronique Provencher. La professeure titulaire à l'école de nutrition de l'Université Laval nous propose de penser à notre enfance, par exemple. Quand on était jeune, dit-elle, si on a été habitué à un menu redondant, ça peut être réconfortant de manger souvent la même chose. Ou alors, on peut avoir été écœuré et vouloir aujourd'hui de la nouveauté. Notre réaction devant un plat de type Tupperware varie selon nos expériences passées, nos croyances et nos traits de personnalité, estime la chercheuse au Centre Nutrice Nutrition Santé et Société. 2. Votre définition du plaisir. En tant que chercheuse ou nutrice de l'Université Laval, Simone Lemieux s'intéresse beaucoup à la notion de plaisir. Au fil de leurs recherches, ses collègues et elle ont établi que le plaisir de manger comprend 22 dimensions. Notons l'expérience sensorielle, le processus de préparation de la nourriture, l'ambiance, les souvenirs, le temps dont on dispose, mais aussi la variété et la nouveauté. Il y en a pour qui ce sont des facteurs de plaisir extrêmement forts, m'explique Simone Lemieux. Pour eux, la relation avec les restants n'est pas tellement empreinte de bonheur. Par contre, il y en a d'autres pour qui la routine est positive. Ça dépend de quels sont les facteurs qui font qu'on a du plaisir à manger et ils sont variables d'une personne à l'autre. 3. Vos priorités. Ève Crépeau est nutritionniste du sport et professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal, U2M. Elle remarque que certains de ses clients veulent simplement qu'elle leur dise quoi manger, heureux de ne carburer qu'aux 3 mêmes repas pour le reste de leur vie. Ces gens souhaitent mieux performer. Ici, l'alimentation répond à un rôle précis plutôt qu'à une série de plaisirs. Je me reconnais dans ce qu'elle décrit. Je vis pour manger bien plus que le contraire, mais je m'endors chaque soir en pensant avec joie à mon déjeuner du lendemain, qui est toujours la même chose. J'ai mis longtemps à trouver la recette parfaite, celle qui goûterait le ciel en plus d'être saine et d'avoir les nutriments essentiels pour me donner beaucoup d'énergie. Au fond, j'aime mon fromage cottage au bleuet et mon gâteau à l'avoine en partie parce qu'ils répondent à des fonctions claires pour la néo-sportive que je suis. Si je me fie aux informations à la mode sur Internet, je commence mon matin avec un plat qui obtiendrait un A+ en protéines, en glucides et tout le reste. Ève Crépeau profite de ma confidence pour souligner l'influence externe dans notre rapport à la nourriture. C'est tellement complexe, la nutrition, nous dit-elle. Il y en a qui se sentent coupables de manger. Il y a les réseaux sociaux qui nous disent tout et son contraire. On en vient souvent à se demander ce qu'on doit faire. La nutrition peut devenir une source d'anxiété. Et dans ce cas-là, déguster souvent un même mets peut nous rassurer. En attendant de vivre dans une société qui laisse notre appétit tranquille, j'imagine. 4. Vos valeurs. Quand on mange des aliments qui sont cohérents avec nos valeurs, par exemple des restes pour éviter le gaspillage alimentaire, ça goûte meilleur. La nutritionniste Simone Lemieux remarque que nos considérations idéologiques influencent notre plaisir de se nourrir. Elle souligne qu'avec la bataille économique que le Canada doit livrer aux États-Unis, certaines personnes seront possiblement prêtes à manger avec plus de joie des produits d'ici. De fiers surplus canadiens sont à prévoir. 5. Votre charge mentale. Attention, alerte à la nuance. Selon Véronique Provencher, la redondance peut être une façon de se faciliter la vie puisqu'elle diminue la charge mentale. Logique. En même temps, les surplus compliquent le quotidien d'autres personnes, poursuit-elle. Ça peut aussi amener une lourdeur de devoir réutiliser ce qu'on fait, demander de la planification et rajouter de la charge mentale à une personne. J'imagine que le tout s'apaise quand la charge mentale est équitablement répartie au sein du foyer. Oui, c'est un commentaire éditorial. 6. Vos aptitudes ou votre âge. La littératie alimentaire regroupe nos connaissances, compétences et comportements sur le plan de l'alimentation. Elle se déploie dans notre capacité à planifier, gérer, sélectionner, préparer et consommer les aliments, m'a appris Véronique Provencher. Plus notre littératie est grande, plus on arrive à être créatif avec nos surplus. Chez les 50 ans et plus, les femmes ont un niveau de littératie plus élevé que les hommes, a constaté la chercheuse aux nutrices de l'Université Laval dans un récent sondage. Chez les moins de 50 ans, c'est égal entre hommes et femmes, mais on se trouve au niveau des hommes de plus de 50 ans. Les plus jeunes n'ont donc pas un aussi bon niveau de littératie que les générations précédentes. Qu'est-ce qui explique ça? Perte de transmission des savoirs? Consommation d'aliments préparés? L'étude est en cours, mais des hypothèses se dessinent déjà. Je vous en reparlerai certainement parce que je refuse que les adultes de demain soient condamnés à des surplus de triste qualité. C'était « Les surplus et vous », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 23 février 2025 dans La Presse.
« l'espace Riopel ou faire vibrer la toile comme une chanson d'amour. Un texte de Sébastien Tanguay paru le 18 février 2025 dans Le Devoir. Après des années de préparation et quelques-unes de démolition, l'espace Riopel prend lentement forme au cœur des plaines d'Abraham. Le nouveau pavillon du Musée national des beaux-arts du Québec, MNBAQ, accueillera la plus grande collection publique d'œuvres de Jean-Paul Riopel au monde et promet déjà de guider le public par le bout du cœur à travers les toiles du plus illustre des peintres québécois. Sur place, là où se dressait jusqu'à l'automne 2024 l'emblématique pavillon d'accueil et son iconique lanterneau de verre, les ouvriers bravent le froid mordant de l'hiver pour ériger ce qui deviendra, à l'horizon 2026, un écrin somptueux pour plus de 500 œuvres de Jean-Paul Riopel. Le public entrera dans un petit exploit d'ingénierie lorsqu'il découvrira le bâtiment l'an prochain. Les collections du musée sommeillent sous le chantier, vulnérables à la poussière, à l'eau et à la moindre secousse. Il a donc fallu travailler en orfèvre et sans provoquer de trop grandes vibrations pour déconstruire le grand hall, couler de nouvelles fondations, ajouter une salle de machinerie et plusieurs dizaines de mètres de conduits à proximité de quelque 44 000 trésors du patrimoine québécois, dont 9 000 déménagés des réserves en amont des travaux. Cette minutie, assortie d'un budget de 84 millions de dollars, culminera en un nouveau pavillon de verre, d'acier et de bois, situé à la confluence du ciel, du fleuve et du parc des champs de bataille. Le plus célèbre chef-d'œuvre du peintre, l'hommage à Rosa Luxembourg, couronnera le nouvel édifice, enveloppant le public dans une disposition en cercle rendue possible grâce à un jeu d'aimantation spécialement conçu pour cette salle. L'espace Riopel ajoutera, en tout, quelques 2000 mètres carrés à la capacité d'exposition du musée et promet déjà de lever le rideau sur les coulisses de la muséologie. Une salle entièrement vitrée permettra au public d'observer la restauration, le dévoilement ou la mise en quarantaine d'œuvres, des exercices aussi méconnus que méditatifs que l'espace Riopel entend mettre en lumière. Une salle d'exposition temporaire permettra aussi de placer l'accent sur des artistes qui ont gravité dans l'orbite du peintre. Nous avons réfléchi à la contribution des musées dans la construction des identités nationales, une contribution qui passe souvent par la célébration des grands et la commémoration des champions, analyse le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray. Il y a toute une dynamique autour de ça dans le monde, mais il n'y a rien de similaire au Québec. Nous essayons de le faire intelligemment, sans que ça ne nous empêche jamais de poser un regard critique sur Riopel s'il le faut. Ce n'est pas un mausolée ni un temple que nous créons, c'est un espace de mise en valeur de ses œuvres. Des toiles à ressentir comme des chansons d'amour. Deux chantiers parallèles auront enfanté le nouveau pavillon à l'automne 2026. Outre celui de béton, de sueur et de force de bras qui se déploie depuis près d'un an, un second plus discret se déroule au même moment dans les laboratoires de l'École de psychologie de l'Université Laval sous la gouverne du professeur Sébastien Tremblay. Le défi que nous tentons de relever, c'est de pouvoir prédire les émotions ressenties face à l'art, explique le directeur du laboratoire Codot. Nous essayons de suivre le visiteur ou la visiteuse dans son parcours pour être capable de mesurer, en temps presque réel, la gamme d'émotions vécues devant l'étoile. Le travail scientifique porté par Sébastien Tremblay et son équipe imprimera sa marque sur l'espace Riopel, promet le directeur général du MNBAQ. Nous utiliserons ça comme matière première, assure Jean-Luc Murray. Ce travail se base sur des théories esthétiques qui remontent à Aristote, sur l'expertise de nos experts aidés par 200 cobayes qui ont parcouru nos salles pendant que nous captions ce qu'ils ressentaient. Nous sommes capables, avec un modèle conçu à l'aide de l'intelligence artificielle, de prendre tout ça en compte et de déterminer à 85 % la valence et l'intensité émotionnelle éprouvée devant une œuvre. Ça nous permettra de moduler notre façon de travailler. Si vous êtes déprimé, par exemple, nous pourrions vous proposer un parcours où se déclinent des œuvres que nous savons productrices d'émotions davantage positives, un peu à la manière d'une playlist de chansons d'amour que vous écoutez après un chagrin amoureux. La claque Riopelle. Cette méthode fondée sur l'intelligence artificielle n'a aucun équivalent dans les musées du monde, croit Jean-Luc Murray, qui y voit un outil extraordinaire pour désintellectualiser l'univers muséal et rendre l'art plus accessible. Nous ne demandons pas aux gens de laisser leur tête au vestiaire, mais nous faisons un effort conscient pour maximiser ce qu'ils devraient vivre devant une œuvre d'art, déclare avec enthousiasme le directeur général. Les musées ont peut-être moins bien travaillé depuis 30 ans en proposant des choses trop intellectualisées. Avec Riopelle, nous avons une occasion parfaite de mettre la théorie en pratique, car c'est un artiste qui produit des émotions très intenses. Riopelle, ça vous donne une vraie claque dans la face, un bon coup de genou dans les chenolles. Dans la salle d'exposition de l'hommage, par exemple, un parfum choisi avec l'alchimiste des arômes François Chartier titillera le public pour magnifier l'émotion provoquée par la fresque. Riopelle était un grand innovateur, conclut Jean-Luc Murray. Nous nous sommes dit qu'il fallait concevoir son espace avec son esprit, baveux, innovant, inattendu. C'était l'espace Riopelle où faire vibrer la toile comme une chanson d'amour, un texte de Sébastien Tanguay paru le 18 février 2025 dans Le Devoir.
Piloter, un rêve accessible pour les Nunavummiut. Un texte de Karine Lavoie, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie. Débuté en 2022 à Thompson, au Manitoba, le programme de formation au pilotage Atik Mason offre aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits l'opportunité de devenir pilote privé ou commercial. Entièrement financé, l'initiative qui s'est étendue en 2024 à Rankin Inlet a permis, lors de sa première année, de former 8 jeunes Nunavummiut. Timothée Attic, Tick Mason, est l'un des rares pilotes autochtones titulaires d'une licence commerciale au Manitoba. Sa carrière aéronautique a pris son envol lorsqu'il a reçu la bourse Bill World de Perimeter Aviation et qu'il a déménagé à Moncton en tant qu'étudiant, puis instructeur de vol à Moncton Flight College. En plus de servir sa communauté natale de Saint-Thérèse à Pointe en tant que copilote à bord de l'avion Dash 8 de l'Institut Perimeter, il contribue au programme de formation en tant qu'instructeur de vol, leader culturel et mentor. Se former près de chez soi. Dans un esprit de réconciliation économique, les frais de formation en vol ainsi que l'hébergement pendant la formation sont inclus pour les étudiants du programme de pilotage autochtone Atik Mason, informe Lisa McGivray, gestionnaire à Exchange Income Corporation, EIC, la société mère de Perimeter Aviation. Les étudiants du programme reçoivent aussi une modeste allocation pour les aider à couvrir leurs dépenses personnelles pendant leur séjour. EIC reconnaît l'importance d'aider à créer des possibilités pour les Autochtones de croître, de prospérer et de réussir à long terme, tant pour eux-mêmes que pour leurs communautés élargies, ajoute Lisa McGivray. Elle explique que la communauté de Rankin Inlet a été choisie comme base la plus au nord pour offrir aux Nunavummiut la possibilité de suivre une formation pour devenir pilote de ligne commerciale tout en restant près de chez eux. Le programme offre tant un enseignement pratique que théorique qui comprend notamment les thèmes de la navigation d'un avion, la communication avec les contrôleurs aériens, la météo, les lois qui régissent le pilotage d'un appareil et l'aérodynamisme. Depuis la création du programme en 2022, plus de 40 étudiants autochtones ont été formés, dont 6 sont maintenant des employés à temps plein au sein du réseau d'exploitants de l'EIC. Des 8 élèves qui se sont inscrits au programme de Rankin Inlet l'an dernier, 7 ont obtenu leur permis de pilote de loisirs avant de poursuivre leur formation avec MFC Training à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où ils travaillent actuellement à l'obtention de leur licence de pilote professionnel. Devenir un modèle. Lisa McGivry souligne que d'offrir de la formation au Nunavut pourra, ultimement, permettre aux diplômés de servir leur communauté. Nos étudiants auront l'occasion de continuer à vivre dans leur communauté tout en travaillant comme pilote commercial. La création d'un cheminement de carrière dans l'aviation permet non seulement à nos étudiants de se former tout en restant près de chez eux, mais aussi de devenir des modèles pour leur communauté et les générations futures de peuples autochtones, soutient-elle. Le programme de formation au pilotage à Tikmason respecte les traditions culturelles des étudiants en leur offrant du mentorat et la participation à des activités culturelles. Les étudiants qui réussissent la formation requise pour devenir pilote professionnel se voient offrir un emploi de pilote pour l'un des exploitants aériens DIC qui comprend Perimeter Aviation, Calm Air, Keewatin Air, MFC Training Air Borealis, Paul Airlines, Paul Aerospace, Wasaya Airways, Carson Air et Bearskin Airlines. La deuxième saison de formation à Rankin Inlet accueillera 12 étudiants et débutera en mai 2025. Les candidatures peuvent être acheminées jusqu'au 31 janvier via le site web du programme indigenouspilotpathway.ca. C'était Piloté, un rêve accessible pour les Nunavummiut, un texte de Karine Lavoie, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie.